Luc est là. Salut, Luc.
Allô, allô.
Donc, coronavirus, écoute, dès la semaine passée, tu voulais m'en parler. On n'a pas eu l'occasion d'en parler. On a été pris dans d'autres enjeux, mais tu me disais, écoute, je regarde ce qui se passe là en Asie, ce qui se passe en Europe, puis ça commence à être inquiétant. Et le dernier week-end, les nouvelles qui sont sorties, ben ça t'a donné raison.
Oui, en fait, ça a commencé à se dessiner vendredi. Bon, d'abord, c'est le cas de l'Italie. Le cas de l'Italie qui est un cas très particulier, c'est qu'il semble que on n'arrive pas à trouver le facteur de contagion. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas le client numéro un,
le patient zéro.
Et ça, ça jette un éclairage sur toute la crise, en fait. Puis c'est ce qui se passe un peu aussi en Israël, en Iran. C'est ce qui se passe en Corée du Sud. C'est donc qu'il semblerait que le virus a une période de latence plus longue qu'on pensait, avec des symptômes qui sont soit inexistants ou atypiques. Si bien que pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, on ne pourrait pas savoir que la personne a le virus.
Mais quand tu parles de période de latence, Luc, ce que tu dis, c'est tu contractes le virus, puis pendant une longue période, ben tu sais même pas que tu l'as parce que tu n'es pas malade.
Tu ne sais pas, puis tu es contagieux.
Ah, c'est contagieux quand même.
Oui, c'est ça le problème.
OK.
C'est ça le problème. Alors, comment ça a commencé à se dessiner? Comment on a commencé à voir ces signes-là? Ben, d'abord, le traitement du Princess Diamond au Japon, où on a renvoyé plusieurs personnes chez elle en disant « vous n'avez pas le virus », et puis en Australie notamment, en Israël aussi. Et c'est après que ils ont réalisé, non, il avait le virus. Là, il y a plus qu'une quinzaine de cas où on n'a pas su détecter le virus. Le Japon, c'est pas un pays du tiers-monde. On n'est pas au Cambodge, là. Tu sais, je veux dire, au Cambodge, ils ont laissé des gens sortir des bateaux et aller se promener dans le pays. Mais là, c'est le Japon. Tu sais, une des économies les plus développées de la planète, une des gens à la fine pointe de la technologie. Alors ça, c'était déjà un premier signal. Après ça, il y a eu cette affaire de la Corée. Alors, la Corée, on pourrait penser que c'est la proximité avec la Chine qui fait que les gens ont attrapé le virus. Non, c'est un voyage en Israël. Donc, il y aurait eu un voyage en Israël il y a 18 personnes qui sont revenues malades de ce voyage en Israël-là et qui ont donné le virus à tout le monde. Ensuite, il y a toute cette histoire des prisons en Chine où, bon, les gens étaient enfermés dans leurs cellules, comme d'ailleurs dans le bateau, ils étaient enfermés dans leur habitacle. Et ça s'est répandu à toute vitesse dans une prison de femmes où il y a eu 200 cas, puis dans une prison d'hommes aussi où il y a eu 200 cas. Alors là, on a commencé à comprendre que la contagion, il y avait un problème avec la contagion, et ce problème-là, c'était qu'on n'arrivait pas à la déceler dans les premiers jours. Et toutes les accusations qui ont été portées à la Chine au début en disant « ben vous avez donc traîné les pieds longtemps, ça a pris 15 jours avant que vous nous disiez qu'il y avait un vrai problème », c'est sans doute lié à ça. C'est sans doute lié au fait que les symptômes n'étaient pas si évidents dans les premiers temps. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que il y a bien des gens sans doute qui se sont promenés à travers le monde et qui l'ont. On pense à l'Afrique notamment, où il y a 1 million de travailleurs africains, chinois en Afrique. Et que donc, on pourrait passer à la pandémie étape 2, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en confinement de la maladie dans le territoire de Hubei, il va falloir être en résolution de la crise sur un territoire beaucoup, beaucoup plus grand.
Toi, pour ce qui est de langue québécois-canadien, là, avec le transit à Montréal-Trudeau d'une femme qui s'en allait à Vancouver et qui était malade, est-ce que ça t'inquiète ou t'arrives à garder la tête froide?
Non, moi, je pense qu'on doit tous garder la tête froide. Bon, l'inquiétude vient du fait que, tu sais comment ça fonctionne une contagion. La grippe, à chaque année, l'influenza, ça meurt de sa belle mort, si tu veux. C'est qu'à partir d'un certain moment donné, il y a plus personne à contaminer. C'est-à-dire que les gens développent des anticorps, et ces anticorps-là leur permettent de lutter contre une personne qui viendrait, qui serait malade. Et à un moment donné, il y a plus de personnes qui ont des anticorps que de personnes qui les ont pas, puis tranquillement, ça se réduit à zéro. On n'a pas d'anticorps pour le coronavirus. On n'en a pas. Alors, c'est la première forme d'inquiétude. La deuxième forme d'inquiétude, c'est que ça tue beaucoup, beaucoup plus que le SRAS. Donc, c'est 3 % de mortalité par rapport au SRAS. Et le SRAS, au complet, à travers le monde, c'est à peu près 800 cas. Là, on est rendu à 2444 cas. Donc, ça tue plus, ça contamine plus. C'est des petites gouttelettes qui voyagent beaucoup mieux que celles du SRAS. Alors, il y a des inquiétudes à y avoir, mais on a un bon système de santé. On est capable de confiner les personnes qui vont l'avoir attrapé. On est capable de limiter les dommages. Mais on espère encore que, et c'est une question de jour, là, on va le savoir, là, parce qu'en ce moment, c'est Iran, Israël, Corée du Sud, Japon, Italie. On va savoir dans les prochains jours s'il y a des cas qui apparaissent un peu partout. Et si c'est pas le cas, ouf, un gros ouf. Sinon, une grosse grippe.
OK. Luc, je veux que tu me parles aussi de la crise autochtone. On a vu, là, la police provinciale de l'Ontario a démantelé la barricade dans le sud de l'Ontario. Les Autochtones qui tenaient cette barricade-là, ce sont des Mohawks. Des Mohawks, il y en a ici, dans la région de Montréal, Kanawake et Kanesatake. Et ce qu'on a vu, action, réaction, c'est-à-dire qu'il y a des barricades qui ont été érigées tout de suite à Kanesatake. Qu'est-ce que ça dit, tout ça?
Bon, premièrement, ça nous dit que il n'y a pas une stratégie nationale de barricade. C'est pas tout lancé par la nation Wet'suwet'en à travers le monde. C'est comme s'il y avait un mot d'ordre à travers le Canada, je veux dire. Comme s'il y avait un mot d'ordre qui était suivi par l'ensemble des nations. C'est des gestes spontanés qui sont faits par des personnes, même pas le conseil de bande, qui sont faits par des personnes au sein de la communauté. Et là, on voit à Kanawake qu'il y a des personnes au sein de la communauté qui en ont gros sur le cœur. Parce que là, on voit que c'est pas une revendication nationale, c'est pas une revendication du conseil de bande de Kanawake ou de Kanesatake, c'est même pas une stratégie Mohawk, puisqu'il se passe rien à Kwassasné. Néanmoins, ils sont assez agressifs dans leur déclaration, dans leur dénonciation. On s'imagine pas non plus là, que ces gens-là font ça pour l'écologie et l'environnement. Ça se serait su avant là, s'il y avait eu un fort discours environnemental de la communauté de Kanawake. Il n'y en a pas eu depuis des années. C'est pas que ce sont des gens qui sont pires que nous en matière d'environnement, mais bon, il n'y a pas eu de type de revendication forte de ce type-là. Ça accompagne souvent leur message, mais on n'est pas comme des communautés qui défendent leur territoire contre la déforestation, par exemple, ou la construction d'un barrage. On n'est pas dans une communauté isolée. Ils ne vivent pas de la chasse et de la pêche. Ils n'ont jamais vécu de la chasse et de la
mais
pêche.
Mais Luc, on a reçu à 16h10 le journaliste de The Gazette, oui. Christopher Curtis, hein, qui était, quand je lui ai parlé tantôt, il était derrière les barricades à Kanesatake. Il a travaillé chez les Mohawks. C'est là qu'il a fait ses débuts en journalisme. Il connaît plein de monde là-bas. Lui, ce qu'il me dit, c'est un mot, solidarité. Solidarité entre Autochtones et entre Mohawks.
Bon, très bien. Moi, déjà, j'applaudis ça, mais je pense pas que ça va durer longtemps. Parce que c'est un acte isolé d'une communauté isolée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à mon avis, il va y avoir à partir du moment... À moins qu'à Belleville, ça reprenne. À moins que... c'est quoi, Tiengana? Oui. À moins que Tiengana, ça reprenne et que là, il soit très, très fâché de ce qui s'est passé puis qu'il remonte une barricade, etc. Mais... à partir du moment où tu le fais en solidarité pour un groupe qui soutenait un groupe, puis que c'était les seuls au Canada, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir une usure.
Toi, tu penses que ça ne va pas durer, les barricades?
Non, je ne pense pas que ça va durer, mais bon. À Kanawake, une situation particulière avec des gens qui ont un historique particulier. Tu sais, c'est pas une nation comme les autres, là. Hein. Ils sont un territoire urbain avec des problèmes presque urbains, ça ne correspond pas du tout avec ceux, par exemple, du territoire sacré de Wet'suwet'en, mais une revendication qui date depuis très, très, très longtemps. Il y avait, à une certaine époque, il y avait la communauté, le territoire faisait 40 000 acres, il a été réduit à 11 000 acres. Ils n'ont jamais accepté ça. Ils sont en négociation avec le fédéral. Le fédéral a donné des millions pour racheter des territoires, mais ce n'est pas des territoires qui sont expropriés. C'est à la communauté, avec les millions qu'ils ont, de racheter ces territoires-là. C'est des deals qui se font. On appelle ça des ententes particulières. Il y en a une aussi qui est faite avec la communauté de Aoka. Beaucoup plus grande, d'ailleurs. Ils ont donné 140 millions pour acheter des territoires. Et il y a beaucoup de frustration. Ça va pas bien, c'est trop lent, le fédéral revient sur sa parole, il y a un changement de gouvernement, etc. On peut penser que ces frustrations-là pèsent dans la balance.
Luc, je veux t'amener sur un terrain similaire, là, mais pas tout à fait le terrain des blocus. Quand tu étais à la ville, il me semble que c'est à peu près à cette époque-là où on a commencé, là, les politiciens à l'hôtel de ville ont commencé à dire, bon, écoutez, on reconnaît qu'on est en territoire non cédé, tu sais, avant une conférence de presse, avant une cérémonie, etc. Denis Coderre faisait ça, Mme Plante fait ça. Je sais que c'est un principe qui est contesté par certains historiens. Toi, sur le fait que Montréal est un territoire non cédé, où tu loges là-dessus?
Ça prend vraiment un historien pour le dire. Cette façon de faire a commencé dans l'ouest du pays. Puis dans l'ouest du pays, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est un territoire non cédé. Alors qu'ici, on parle de deux situations très particulières. Dans un cas, on a déménagé la bande de d'Aquassas... Non, pas la bande, excuse-moi, de... celle d'Oka, j'oublie le nom.
C'est des Mohawks, à Kanesatake.
Kanesatake. Oui. On a déménagé la bande de Kanesatake à plusieurs reprises. On a rogné sur leur territoire. À un moment donné, on leur a donné un territoire qui était déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit que celui qu'ils revendiquaient. Puis après ça, les Blancs ont commencé à s'installer dessus. Alors, il y a eu des renégociations puis des renégociations, mais il s'agit de territoire de la taille d'une seigneurie. Il ne s'agit pas de la taille d'un territoire comme, par exemple, l'île de Montréal au complet.
Oui. Alors, c'est tout petit. Là.
C'est ça. Mais ce que dit Hélène Gabriel, par exemple, à Kanesatake, c'est qu'eux, ils ne veulent pas de cette négociation-là. Ils ne sont pas intéressés par la négociation qui reviendrait à un territoire de la taille d'une seigneurie. Eux considèrent qu'il y avait 600 km² au nord de Montréal qui était occupé par les Mohawks quand les Blancs sont arrivés, et c'est ces 600 km² qu'il faut revendiquer. Et pour les Mohawks, par contre, de Kanesatake, c'est impossible de faire cette revendication-là parce que c'est un mandat qui a été donné aux Jésuites de dire « on va rassembler Vous allez rassembler les Indiens à l'époque. Vous allez rassembler les Indiens, qui étaient d'ailleurs la plupart du temps des chrétiens, qui fuyaient les guerres qu'il y avait dans l'ensemble des autres territoires, notamment dans l'État de New York. Vous allez les rassembler sur un territoire. Bon, ce territoire-là, il était petit, 40 000 acres, puis il a été rogné par les Blancs. Alors, mais même s'il a été rogné par les Blancs, puis même s'il y a des revendications territoriales, c'est pas du tout, du tout, du tout de la même ampleur que les autres.
Parfait, merci Luc. On se reparle demain.
C'est tout plaisir pour moi.